Je vais vous parler ce matin de votre identité. Vous avez chacun une de ces cartes, n'est-ce pas? Mm-hmm. Nous, on n'a pas. Ça n'existe pas pour les Anglais. Mais
je sais que
c'est une chose très importante, l'identité. Alors, commençons avec une question. Quelle est votre identité? Vous pourriez peut-être dire « je suis briviste ». En France, nous, Shelley et moi, nous habitons le village du péché. Attention, les habitants du péché ne sont pas des pêcheurs, mais des pêcheurs quoi? Mais en fait, 100% des habitants du péché sont également des pêcheurs, comme 100% des habitants de Brive. Et 100% des personnes présentes aujourd'hui. Nous avons tous une identité géographique. Dans cette salle, nous avons des Français, des Anglais, quelquefois des Américains, aujourd'hui une Arménienne, quelquefois des Colombiennes, des Espagnols, des Équatoriennes, etc. Nous avons aussi une identité européenne, partagé avec les Britanniques, que ce soit hors de l'Union ou dans l'Union européenne. Mais nous avons aussi d'autres identités. Dans votre famille, vous avez peut-être l'identité d'un fils, d'une mère, d'un frère. Le S-O-N, dont mon nom Dobson, indique « fils de Robert ». Évidemment, un de mes ancêtres s'appelait Robert. Alors, nous avons une identité familiale. En cours de quelques recherches familiales, il y a 5 ans, j'ai aussi découvert que je suis d'origine picarde, d'une famille huguenot qui s'est réfugiée à Londres en 1683. Vous avez aussi une identité biologique d'homme, ou de femmes, de jeunes, de vieillards, peut-être d'époux ou d'épouses, de frères, de sœurs, etc. Vous aurez peut-être aussi une identité professionnelle, soit d'étudiant, d'artisan, de professeur, de médecin, etc. Dans ce sens, l'identité s'agit du groupe de personnes avec lequel je m'identifie. Je suis dans ce groupe d'hommes, d'anglais, de mères, de vieillards, quoi que ce soit. Et nous, nous sommes aussi un groupe. Nous avons une identité partagée. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens évangéliques. Nous sommes des chrétiens évangéliques baptiste. Jusqu'ici, j'ai parlé des catégories humaines d'identité. Notre origine géographique, notre langue maternelle, notre âge, notre sexe, notre profession, notre culture. Mais il y a une autre identité plus importante. L'identité que nous avons chacun reçue de Dieu lui-même. Regardez dans vos Bibles, 1 Jean chapitre 3. Dans mon Bible, c'est à la page 1229, si ça vous aide. Là, nous voyons que nous avons une identité étonnante. Verset 1, chapitre 3. Voici quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Notez en première place que nous sommes appelés enfants de Dieu. Comment cela? Par la croix, par la nouvelle naissance. Quel honneur imaginable. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas seulement un titre d'honneur. Brive a un titre d'honneur, n'est-ce pas? La Gaillarde. Mais quelquefois, Brive est sombre. Quelquefois, Brive est triste. Quelquefois, les CAB ne gagnent pas au rugby. Brive n'est pas toujours gaillarde. Brive n'accorde pas toujours avec sa titre d'honneur. L'identité que Dieu nous donne est plus qu'un titre d'honneur. Écoutez encore les mots de Jean. C'est étonnant, c'est extraordinaire, c'est presque incroyable, mais c'est le cas. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Notre identité le plus important, celui qui nous donne Dieu, la voici, enfant de Dieu. Quel privilège! Chaque chrétien partage cette identité. Une identité infiniment plus valable que celle d'être briviste, anglais, masculin, etc. Nous avons chacun une identité individuelle que Dieu nous a donnée. Regardez pour un moment Apocalypse, chapitre 2. C'est à page 1236. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la main cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Vous avez votre carte d'identité française. Voici votre carte d'identité célestiale. Et ce n'est pas comme la carte d'identité française qui est un document public. Ceci est un document privé. Ça ressemble beaucoup plus à ça. Si vous avez une carte bancaire, alors ça vous appartient, c'est à vous. Mais il y a un numéro secret pour les transactions individuelles que vous pouvez faire entrer ce chiffre pour faire des transactions individuelles. Et c'est ça qui est représenté ici en Apocalypse, n'est-ce pas? Vous êtes individuellement connu en relation avec Dieu par cette identité que lui nous a donnée. Mais au-delà de cette identité individuelle, Dieu nous donne une identité corporelle. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes dans une famille. J'ai quelques photos à vous montrer. Attendez un moment. J'ai plusieurs copies, mais il faudra un peu partager. Quelques images ici. Et c'est un petit test. Je vais vous demander de regarder ces photos et de penser, on ne vote pas pour le moment, mais on va voter dans quelques secondes. Combien de photos montrent une église?
5. Alors, il faut distinguer si c'est le bâtiment ou l'assemblée.
Il y a une distinction, n'est-ce pas? Une petite histoire. L'enfant dans la rue dit à sa mère, « Regarde, maman, tous les gens qui entrent dans cette église. Non, mon petit, répondit-elle. C'est l'église qui entre dans un bâtiment. Le mot grec dont se dérive notre mot église signifie une groupe de personnes et non pas un bâtiment. Alors ici, vous avez un bâtiment qui est maintenant vide. Ça sera le site d'implantation d'une nouvelle église à Oxford dans quelques semaines. Ça, c'est la... Qui sait ce que c'est?
L'église du péché?
Non. C'est la chapelle Saint-Libéral, ici à Brive. Mais ce n'est pas utilisé du tout, je pense, pour les choses chrétiennes maintenant. Et nous, notre bâtiment ici, ce bâtiment, c'est une église dans le sens nouveau testamentaire? Non, non. L'église, c'est ce que je vois d'ici. C'est vous. Et ce groupe, c'est notre église à Oxford qui se réunissent ensemble. Bon, ça suffit pour le quiz. L'Église, ce n'est pas où nous allons, c'est qui nous sommes. C'est notre identité. Une identité corporelle donnée par Dieu. Donc, plus importante que la résidence, la langue, la nationalité, la profession. Dans nos études, les mardis soirs, nous avons passé du temps à regarder l'épître de Pierre. Et c'est à ça que je vais référer dans un moment, mais nous sommes d'accord, n'est-ce pas? L'Église n'est pas un bâtiment. Mais selon Pierre, l'Église est un bâtiment. 1 Pierre 2. Verset 4, page 1221. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Pierre utilise cette image d'un bâtiment pour expliquer quelque chose d'important. Où est-ce que Pierre a trouvé cette idée de comparer l'Église avec un bâtiment? De dire même que l'Église est un bâtiment spirituel. Pierre a passé 3 ans, n'est-ce pas, en présence de Jésus. Probablement le moment le plus précieux pour lui était quand il a reçu la révélation de Dieu. Et confesser, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous le trouverez, on ne va pas le lire maintenant, mais c'est en Matthieu, chapitre 16, verset 16. Et Jésus, en réponse, a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'idée de l'Église comme bâtiment ne vient pas de Pierre, ça vient de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette image d'un bâtiment? Premièrement, c'est Jésus qui construit le bâtiment. Je bâtirai, dit Jésus. Nous trouvons la même chose à la naissance de l'Église en Actes, chapitre 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui construit l'Église, pas nous. En deuxième place, la conséquence d'être sauvé est d'être incorporé dans l'Église. Jamais dans le Nouveau Testament se trouve d'exemple de chrétiens solitaires. Ceux qui disent, il ne me faut pas aller à une Église, je peux prier tout seul, je peux lire la Bible tout seul. Je peux être chrétien tout seul. ces personnes n'ont pas compris ce qui signifie d'être chrétien. Souvent dans le Nouveau Testament, les apôtres parlent de l'Église comme le corps de Christ ou la mariée de Christ. La participation n'est pas une option, ce n'est pas une chose facultative. Je vais demander maintenant, parce que nous n'avons pas eu un texte pour ce discours, mais la partie la plus importante suit, parce que je vais demander à Frank de lire une portion de 1 Corinthiens chapitre 12, où Paul explique comment fonctionne le corps de Christ. Frank, à toi. C'est 1 Corinthiens
chapitre 12, versets de 12 à 27. 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Car, comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne sort-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne sort-il pourtant pas du corps? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps, comme il a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Si l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien au contraire, les membres du corps, qui paraissent les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés. Au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier.
Nous avons une identité corporelle comme Église. Et dans cette identité, chacun a un rôle, et les rôles sont différents. Quelqu'un est le pied, et quelqu'un est la pouce, quelqu'un est le nez. Je ne vais pas attribuer ces parties entre nous, mais évidemment, on est différents, mais tous sont nécessaires. Selon Pierre, chacun des pierres vivantes a une position spéciale, un rôle actif dans le bâtiment. S'il manque une pierre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou. S'il manquait dans le mur de notre bâtiment une pierre, ça risquerait de laisser entrer la pluie, le foie, la poussière, les petits oiseaux. La stabilité du bâtiment serait réduite. Chaque personne est nécessaire. Chacun d'entre nous est un pierre, selon le Nouveau Testament. Si vous n'êtes pas là, il y aura un trou, une manque. Une faiblesse dans notre Église. Voilà quelques descriptions de notre identité comme individu, comme groupe de chrétiens. Mais comment réconcilier notre identité chrétienne avec le monde de 2019? Dans son épître, Pierre écrivit à ceux qu'il appelait des étrangers et des dispersés. Qu'ils soient d'origine juive ou grecque, les chrétiens étaient mécompris par le monde. En fait, on les appelait des athées, Parce que chez eux et dans leur assemblée, on ne voyait jamais de Dieu en forme d'idole. Alors, s'ils n'ont pas de Dieu, ce sont des athées. Ils étaient mécompris. Leur identité paraissait bizarre aux gens du monde qu'ils habitaient. Et nous, comme Église, dans le 21e siècle, que pensent les gens de nous et de notre identité? Beaucoup pensent de l'Église comme un bâtiment. Souvent un bâtiment menaçant, n'est-ce pas? Ils hésitent d'entrer. Ils ont peur de venir à l'intérieur. Nous avons déjà parlé de cette fausse idée. L'Église n'est pas un bâtiment. D'autres pensent d'une organisation hiérarchicale. Pour eux, aller dans l'Église signifie l'adhérer comme curé, moine, religieuse, quelque chose comme ça. D'autres encore, y compris quelques croyants, malheureusement, pensent de l'Église comme un club religieux pour ceux qui s'y intéressent. Un club religieux, ça vous intéresse ou non? Qui seraient les membres? Peut-être des théologiens, des curés, de très vieilles dames? Regardez autour de vous. Est-ce que cela nous décrit? Je ne pense pas. Pour comprendre notre identité, donc, il faut savoir ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Pierre nous dit en sommaire, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, que nous sommes une race élue, une sacerdoce royale, un peuple acquis, une nation sainte. Quel patrimoine! Mais pourquoi est-ce que nous sommes ici, dans ce monde, à Brive-la-Gaillarde? Pourquoi essayer également d'établir des églises à Faverges, à Périgueux et ailleurs? Parce que Jésus construit son église pour une tâche. 1 Pierre, chapitre 2, encore, verset 9. « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » C'est notre tâche d'annoncer les vertus de Jésus. Nous avons pensé à notre identité individuelle et notre identité comme Église. Avant de terminer, je veux parler pour quelques moments des activités d'une Église néo-testamentaire. Parce que les activités sont la conséquence de l'identité, n'est-ce pas? Si vous voulez tourner la page quelques instants, on les trouve en Actes chapitre 2, c'est la page 1090. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quatre choses. L'enseignement. Au début de l'Église, il a fallu expliquer à tout le monde qui était Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit et ce qu'il avait fait. Il est toujours également nécessaire pour nous de faire la même chose. Et l'enseignement n'est pas la seule responsabilité du pasteur. Il y aurait des autres aussi dans l'Église qui ont le don d'enseigner. Quand, dans la culte, Billy demande « Est-ce que quelqu'un a un témoignage, une exhortation, une somme, un verset ?» Il attend. Il attend votre réponse. Ce ne sont pas que des mots qu'il dit toutes les semaines. Pensez-y. Et c'est la responsabilité de tous de prier pour ceux qui enseignent. Deuxièmement, la célébration du salut, c'est impliqué dans la phrase « la fraction du pain » qui parle de la Sainte Cène que nous allons célébrer en quelques instants. Ce que Jésus nous a commandé de faire. En nous rappelant de son sacrifice sur la croix. La croix doit être centrale. La communion fraternelle. J'ai déjà dit que l'Église n'est pas un club, mais une famille. Cela veut dire que les membres seront différents les uns des autres. Chacun avec un rôle différent, mais chacun a une valeur individuelle et doit être estimé par tout le monde. Il n'y a pas de don ni de rôle supérieur ou inférieur. Comme Paul dit en 1 Corinthiens 4, « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? » Dans la communion fraternelle, il n'y a ni grec, ni juif, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Quatrième activité, les prières. En priant ensemble, nous reconnaissons d'abord que nous ne pouvons rien faire sans que Dieu agisse. Nous dépendons absolument de lui. La prière commence avec nos louanges. D'autres éléments, nos confessions, nos remerciements au Seigneur, les besoins des autres et nos besoins. Ces quatre activités en actes ne sont pas exclusives. Nous savons par exemple que l'Église s'occupait aussi de l'évangélisation. Mais j'ai focalisé sur ces activités pour nous stimuler de penser si nous nous comportons comme une Église néo-testamentaire. Les défis que je vous offre ce matin, il y en a trois. Numéro un, est-ce que je suis sensible à mon identité comme enfant de Dieu? Numéro deux, est-ce que je suis sensible à mon rôle comme pierre vivante placée dans l'Église par le Seigneur pour le rôle qu'il a décidé pour moi? Et numéro 3, est-ce que comme Église, nous sommes fidèles au modèle biblique d'une Église?